Alors avant d'aller dans le livre de l'Exode, il y avait encore une lecture que j'avais envie qu'on fasse dans l'Épître aux Hébreux. Donc je vais juste ouvrir rapidement dans vos Bibles, dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11.
C'est moi qui ai oublié de faire la lecture, désolé.
Pas de problème, pas grave. Vous entendrez plus ma voix. Donc Hébreux 11, et on va lire les versets 23 à 27. Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Voilà, jusqu'ici cette lecture. Et vous pouvez maintenant venir dans le livre de l'Exode, donc le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 1. Et comme David a dit, c'est le premier message d'une série que je vais faire dans le livre de l'Exode. Alors c'est quand même un livre de 40 chapitres. Et comme j'ai pas envie de passer 3 ans sur le livre de l'Exode, j'ai pris des assez longs passages. Parfois même très longs, plusieurs chapitres. Ce matin c'est seulement 2 chapitres qu'on va lire ensemble, c'est déjà pas mal. Donc les chapitres 1 et 2. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun vint avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple : voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit : quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit : pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ? Les sages-femmes répondirent au pharaon : c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors, le Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme, encore un chapitre, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?»« Va, » lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Et Moïse prit la fuite, loin du Pharaon, et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Guershom, car, dit-il, « Je suis un immigrant dans un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Vous savez certainement, si vous aimez lire des livres comme moi, des romans ou autres, vous savez que le début d'un livre est extrêmement important. C'est important le début d'un livre parce que ça nous indique quel va être le sujet, le ton, le genre, quels sont les thèmes qui vont être abordés dans le livre. Et j'aimerais qu'on fasse un exercice au début, avant de venir au passage. Je vais vous lire quelques débuts de livres, pas des livres bibliques. Et vous devez me dire de quel livre il s'agit, d'accord ? Vous êtes prêts pour un petit exercice de culture générale ? Premier exemple. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez ? Peut-être, j'ai peut-être entendu juste. C'est l'étranger de Camus. L'étranger de Camus, et tout de suite le ton est donné. Hein, c'est très cynique dès le début. Deuxième exercice. Il était une fois quatre enfants qui s'appelaient Peter, Suzanne, Edmond et Lucie. C'est l'armoire magique dans les chroniques de Narnia de Lewis. Et directement avec la formule « il était une fois », on sait qu'il s'agit d'un conte. Un troisième exercice. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Vous connaissez ça, David? Non?
Un livre de Jane Austen.
Ouais, c'est ça. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et là aussi, tout de suite, on sait de quoi il va être question dans le livre, hein, un mariage. Allez, un dernier plus simple. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Okay. Et directement, on sait qu'on a affaire à une fable. Voilà. Le début d'un livre est extrêmement important parce que ça nous dit tout de la suite. Et c'est pareil pour l'Exode. Ces deux premiers chapitres, ils plantent vraiment le décor pour tout le reste du livre. Et après avoir lu rapidement, après avoir fait une lecture rapide, on peut se demander de quoi est-ce qu'il va parler alors le livre de l'Exode? De quoi est-ce qu'il va être question dans le livre? Est-ce que ça va être une chronique familiale peut-être? Parce qu'on nous a parlé de Jacob, de ses fils, des fils de ses fils qui se multiplient, ça pourrait être une chronique familiale. Est-ce que peut-être ça va être un feuilleton politique? Parce que si vous regardez au verset 10, on a le roi d'Égypte qui dit... Allez, montrons-nous habiles à l'égard d'Israël, rusés. C'est les politiciens qui sont habiles, rusés. Hein. On le voit bien en France avec la course à la primaire en ce moment, où chacun va être plus rusé les uns que les autres. Voilà l'impression qu'on pourrait retirer après une lecture rapide de ces deux premiers chapitres. Mais il y a deux indices dans les premiers versets qui nous indiquent qu'il est question de bien plus qu'une chronique familiale ou qu'un feuilleton politique. Que l'horizon du texte est beaucoup plus vaste que ça, qu'on a une échelle immense. Vous allez voir. Deux indices. Le premier indice, il est bien caché, c'est le tout premier mot. Chapitre 1, verset 1, le tout premier mot. Et je dis que c'est un indice qui est bien caché parce que ce tout premier mot, il n'apparaît même pas dans nos traductions françaises, donc vous n'auriez pas pu le voir. Mais je pense que les traducteurs ont choisi de ne pas l'inclure parce qu'en français, c'est un mot avec lequel on ne commence jamais une phrase, encore moins un livre. Essayez de deviner avec quel mot est-ce qu'on ne commencerait jamais un livre. Eh, exactement. Eh, littéralement, « Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. » Et c'est frappant parce que ça nous montre qu'on a beau être au début d'un livre, on n'est pas au début de l'histoire. On est au début d'un livre, mais c'est la suite d'une histoire. Et le début de l'histoire, bien sûr, il nous est raconté dans le livre qui précède l'Exode, qui est la Genèse. Et qui nous parle précisément de la genèse du monde, de la création de l'univers. Vous voyez, on est à cette échelle-là, une échelle universelle. Et vraiment, il nous faut lire l'Exode dans ce contexte-là, le contexte de la genèse, qui nous donne vraiment une échelle universelle. Et il y a un deuxième indice qui vient confirmer cette première intuition qu'on peut avoir. Il se trouve au verset 7. Regardez encore une fois le verset 7. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Oh, traduction est la terre en fut remplie, c'est le même mot. Alors, pas la terre entière, bien sûr, ni même la terre d'Égypte, mais la terre de Goshen qui avait été accordée à la famille de Jacob lorsqu'ils étaient descendus en Égypte. Si on avait lu, heureusement on ne l'a pas fait, mais si on avait lu tout le livre de la Genèse avant de venir à l'Exode ce matin, ce verset 7, il aurait vraiment résonné à vos oreilles. Parce que vous auriez déjà entendu exactement les mêmes mots, et plusieurs fois. En Genèse 1, 27 et 28, tout d'abord. Vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais vous lire ces versets que vous connaissez bien. C'est les instructions initiales de Dieu aux hommes, en Genèse, juste après la création du monde. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, écoutez bien, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Voilà les instructions initiales de Dieu à Adam et Ève. Et le but n'avait jamais été, ça c'est vraiment important de voir, le but n'avait jamais été pour Adam et Ève de rester dans le jardin d'Éden, mais dès le début, Dieu leur donne la mission de se multiplier et de remplir la terre pour qu'au fur et à mesure que les êtres humains créés à l'image de Dieu, comme des miroirs censés refléter la gloire de Dieu dans le monde, au fur et à mesure que les êtres humains créés à l'image de Dieu se répandent et remplissent la terre, et bien que l'image glorieuse de Dieu, sa gloire, sa puissance, sa majesté remplissent toute la terre. Hein. Étendre, si vous voulez, le jardin d'Éden jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça, les instructions initiales de Dieu à Adam et Ève. Mais on connaît l'histoire. Adam et Ève ont renoncé à cette mission en désobéissant à la parole de Dieu, plutôt que de vivre dans la ressemblance et l'obéissance à Dieu, de se multiplier, de remplir la terre de l'image glorieuse de Dieu. Ils se sont rebellés en écoutant la parole du diable, le serpent, vous vous rappelez, en espérant obtenir la gloire pour eux-mêmes. Et en conséquence de leur acte, le mal et la mort sont entrés dans le monde. Le premier épisode vraiment important dans le livre de la Genèse juste après la chute, c'est le déluge, où toute l'humanité est balayée, à l'exception d'un homme, Noé, et de sa famille. La mort entre dans le monde. Mais s'il est vrai que Adam et Ève ont abandonné la mission que Dieu leur a donnée, Dieu, lui, ne l'a pas abandonnée. Genèse 3,15. Là encore un passage très connu. On est juste après la chute et Dieu dit: Je mettrai inimitié entre toi, il parle au serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Juste attendre un instant. Ce passage de Genèse 3,15 qu'on connaît bien, où Dieu parle au serpent, c'est le moment où Dieu promet vraiment que son plan originel pour le monde qu'il a créé va s'accomplir. Hein? Un jour, un descendant de la femme va se lever pour faire ce qu'Adam n'a pas fait. Lorsque le serpent est venu vers eux dans le jardin d'Éden, il va écraser la tête du serpent, mais on apprend aussi qu'il va être blessé mortellement. C'est ce que Dieu annonce ici. Mais vous voyez, c'est pas étonnant alors qu'à partir de ce moment-là dans l'histoire et dans tout le livre de la Genèse, l'attention, elle se concentre sur la descendance de la femme. On a parlé de Noé, mais surtout Abraham, Isaac et Jacob. Écoutez bien les promesses que Dieu fait à Abraham tout d'abord. Vous allez voir, il y a des liens qui vont se faire entre le début de la Genèse et le début de l'Exode où on se trouve. Donc, promesse de Dieu à Abraham en Genèse 17. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Promesse à Isaac en Genèse 26. Dieu lui dit: Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en toi. Et à Jacob en Genèse 46, Dieu dit: Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Vous voyez, lorsqu'on revient maintenant à notre passage en Exode chapitre 1 et qu'on relit le verset 7, les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants et la terre en fut remplie. Nos oreilles sont grandes ouvertes parce qu'on a bien compris après ce survol de la Genèse qu'il y a plus là qu'une simple chronique familiale, mais qu'il est question du projet de Dieu pour le monde qui est en marche. Un projet qui avait été mis à mal, menacé par la désobéissance d'Adam et Ève, mais qui est maintenant devant nous, sous nos yeux, en train de se réaliser au travers de la descendance d'Abraham. Dieu a un plan. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'on apprend dans notre passage ce matin. Il a un plan. Et c'est frappant que ce soit précisément cette chose-là que Étienne, dans son discours qu'on a lu tout à l'heure en acte 7, que c'est précisément cette chose-là qu'Étienne retient. Je vais vous relire ces versets-là. On est tout au début de l'Église. Étienne est un responsable de l'Église, il est sur le point de mourir pour avoir annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il a un dernier grand discours à prononcer, il rappelle toute l'histoire du peuple d'Israël. Et concernant l'époque qui nous concerne, il dit la chose suivante, écoutez bien. Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple en Égypte s'accrut et se multiplia. S'il y a une raison pour laquelle le peuple se multiplie ici, c'est parce que Dieu a un projet et qu'il est en train de l'accomplir. Dieu a un plan. Et c'est quelque chose qui doit vraiment nous encourager, nous aussi, qui sommes l'Église en Christ, qui sommes la véritable descendance d'Abraham. Parce que pensez un instant à l'ampleur de ce que Dieu est en train d'accomplir. Pour nous qui, particulièrement en France, dans un pays où l'Église est une minorité infime, il est tellement facile de se sentir faible, petit, insignifiant, n'est-ce pas? C'est comme ça que la plupart des gens autour de nous vont considérer l'Église, un petit groupuscule bizarre et totalement insignifiant. Mais voyez, réfléchir un instant à l'ampleur, l'envergure de ce que Dieu accomplit au travers de la lignée de la femme, de la descendance d'Abraham, de son peuple, ça remet entièrement en question l'évaluation de nos contemporains concernant l'Église. Parce que c'est ce que Dieu est en train d'accomplir au travers de son peuple, dans ce passage, au travers de son peuple rassemblé ici ce matin, c'est de réaliser son projet éternel pour le monde entier, de remplir la terre de sa gloire majestueuse. On est à cette échelle-là, une échelle cosmique. Et l'Église, nous ici ce matin, on est un petit groupe de 10-15 personnes, on fait partie de cette histoire-là. La même histoire qui nous est racontée ici, l'histoire du projet bienveillant de Dieu pour le monde. Donc ce qui est en train de se passer là maintenant, ça a des répercussions cosmiques. Vraiment. Lorsque nous sentons petits, faibles, découragés, insignifiants, que ce soit sur le lieu de travail ou dans le cadre d'une implantation d'église comme ici, lorsque vous allumez la radio pour écouter les nouvelles du monde ou que vous ouvrez votre journal et que toutes les apparences vous suggèrent que vous avez vraiment toutes les raisons de vous sentir petit, misérable et insignifiant en tant que chrétien, rappelons-nous que, quelles que soient les apparences, on fait partie du projet cosmique de Dieu. Dieu a un plan. C'est la première chose qu'il faut se rappeler en lisant ce passage. La deuxième chose qui est importante à voir, c'est que Dieu a un ennemi. Verset 8. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons. Montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et, c'est marqué ici, sortir ensuite du pays. Probablement qu'il faut plutôt lire et prendre possession du pays. Il semble que ce soit une meilleure traduction d'un point de vue purement grammatical, mais aussi parce que quelle serait la menace si les Israéliens, pour les Égyptiens, si les Israélites quittaient le pays? C'est pas une menace. Il semble beaucoup plus logique de penser que les Égyptiens, pardon, craignaient que les Israélites deviennent si puissants qu'ils prennent possession du pays. C'est ça la crainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu de temps avant que Joseph descende en Égypte, c'est plusieurs centaines d'années avant le récit ici, hein, mais quelques années avant que Joseph ne descende en Égypte, une peuplade qui s'appelait les Hyksos, c'était un peuple sémite, donc de la même ethnie, de la même branche que les Hébreux, les Hyksos ont pris le pouvoir, ont envahi l'Égypte et ont pris le pouvoir. Et ça explique, en partie en tout cas, que lorsque, à la suite de Joseph, la famille de Jacob est descendue en Égypte, ils ont été plutôt bien accueillis. C'était un peu des cousins, si vous voulez, les Hyksos et la famille de Jacob. Et donc, pendant plusieurs centaines d'années, ils ont vécu sous un régime libéral, assez favorable. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'une trentaine d'années avant la naissance de Moïse, donc à l'époque où on se trouve ici au chapitre 1, ces Hyksos se sont fait chasser du pays par les Égyptiens, ils ont perdu le pouvoir. Et le pharaon qui les a repoussés, probablement celui dont il est question ici, Amès Ier, bien sûr, mettez-vous à sa place, il se méfiait de ceux qui avaient eu la faveur des Hyksos, des envahisseurs. Il se méfiait de ceux pires qui faisaient partie de la même ethnie, de tout peuple sémite, comme les Israélites. Et ça, donc il semble beaucoup plus logique de penser que la crainte des Égyptiens à ce moment-là, c'était précisément que les Israélites deviennent tellement puissants qu'ils prennent pouvoir sur le pays. Ils avaient peur de ça, pourquoi? Parce que ça leur était déjà arrivé, hein, aux Égyptiens, plusieurs centaines d'années avant. Et ça explique en partie que ce régime oppressif soit mis en place ici. Mais, ça c'est de l'histoire, c'est de la politique. Et comme on l'a vu au premier point, on a vu qu'il y avait plus qu'une chronique familiale, il y a plus ici qu'un feuilleton politique. Réfléchissez une seconde à ça. Si l'auteur de l'Exode s'intéressait à la politique, il voulait nous intéresser à la politique, il nous aurait donné le nom du pharaon et il aurait passé sous silence le nom des sages-femmes, non? Et pourtant, il fait exactement l'inverse, hein? On n'a pas le nom du pharaon et on a le nom de ces deux sages-femmes qui sont inintéressantes d'un point de vue purement historique. Donc, ce n'est pas un feuilleton historique parce que aussi le pharaon ne s'attaque pas à n'importe qui, on vient de le voir. Il s'attaque à la descendance d'Abraham, la lignée de la femme. Et il le fait de trois manières. Il y a un plan A, un plan B et un plan C. Plan A tout d'abord. C'est le verset 11 et suivant. Par le travail, le pharaon cherche à épuiser le peuple d'Israël pour éviter qu'il se reproduise, peut-être en essayant de séparer mari et femme, peut-être en essayant de tuer les plus faibles par le travail, en rendant juste leur vie insupportable, verset 13. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Et vous allez voir que ce même mot, la servitude, qui peut être traduit par travail ou service, il va revenir maintenant quatre fois. Ils leur rendirent la vie amère par un rude service avec l'argile et les briques et tout le service des champs, c'est-à-dire par tout le service auquel on l'asservissait avec rigueur. Alors vous allez voir dans un instant pourquoi ce mot est important, mais retenez déjà cette répétition maintenant. Mais voilà le plan A, d'accord? C'est l'esclavage, la servitude, le travail, le service dur par lequel le pharaon veut empêcher les Israélites de se multiplier. Est-ce que le plan A fonctionne? Non. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Alors le pharaon met en place un plan B. Il appelle les sages-femmes des Hébreux, il leur dit, verset 16, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Et là, l'auteur tout de suite nous dit que les sages-femmes craignaient Dieu et que du coup, elles n'ont pas obéi à l'ordre du pharaon et qu'elles ont laissé vivre les enfants. Et ça soulève un certain nombre de questions parce que tout d'un coup, le pharaon, bien sûr, il s'en rend compte. Il les appelle et il les accuse. Il leur dit, mais vous m'obéissez pas. Et les sages-femmes répondent, il semblerait, par un mensonge. Et Dieu les approuve. Dieu leur fait du bien. C'est le verset 19. Les sages-femmes répondirent au pharaon qui les accuse, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est un mensonge. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Alors, comment comprendre ça d'un point de vue éthique? C'est juste un peu une parenthèse, d'accord? Mais il faut se poser la question quand même. Est-ce que Dieu ne commande pas, enfin, est-ce que Dieu ne nous dit pas qu'il est interdit de mentir? Alors, ce qu'il faut voir, avant d'aller plus loin, la première chose qu'il faut voir, c'est que on ne sait même pas si elles ont menti. Il se pourrait très bien que les femmes hébreues ont effectivement accouché plus rapidement que les femmes égyptiennes. On peut même s'imaginer que les sages-femmes s'étaient arrangées avec les Israélites pour qu'ils fassent appel à elles à la dernière minute, pour qu'elles soient sûres d'arriver en retard une fois que la naissance avait déjà eu lieu. Ça se peut, on ne sait pas. Maintenant, admettons qu'il n'y avait aucune part de vérité dans ce qu'elles ont dit au pharaon, qu'elles lui ont simplement menti. Comment comprendre que Dieu récompense cela? La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que le neuvième commandement, qu'on résume parfois en disant cette phrase « tu ne mentiras point », hein, on le résume parfois comme ça, le neuvième commandement dit précisément ça. Il dit « tu ne porteras pas de faux témoignages » contre ton prochain. Littéralement, tu ne répondras pas contre ton prochain en témoin de fausseté. Ce qui est condamné ici, précisément, c'est de parler ou d'agir d'une manière qui trompe de manière mal intentionnée son prochain. C'est pas la même chose. Okay, ça, c'est la première chose à se rappeler. Puis la deuxième chose, c'est que dans le cas des sages-femmes ici, on peut pas dire que le pharaon était leur prochain. Parce qu'il était en train de leur demander explicitement, expressément, de désobéir à la loi de Dieu en mettant des enfants à mort. Il y a certaines situations spécifiques où nous ne sommes pas obligés de dire la vérité, nous n'avons pas l'obligation de dire la vérité à des personnes qui s'en prennent à des vies innocentes. Et le meilleur exemple de ça, et c'est un exemple qu'on peut reprendre peut-être facilement, mais qui je crois est assez parlant, c'est l'exemple des chrétiens qui ont caché des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque les officiers SS étaient à leur porte pour leur demander s'ils cachaient des juifs chez eux, il n'y avait pas de dilemme, je crois, pour eux. Ils pouvaient en toute bonne conscience tromper les officiers SS, voilà, sans avoir l'impression qu'ils étaient en train d'enfreindre le commandement de Dieu. Voilà, c'est la fin de la parenthèse, on peut en discuter après si vous voulez, mais je voulais juste quand même qu'on en parle parce que c'est surprenant. Okay? On pourrait dire plus, mais fin de la parenthèse. C'est le plan B, dit Pharaon. Est-ce que le plan B fonctionne? Non. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Probablement que, il faut lire ici, Dieu leur donna des familles. Que les sages-femmes étaient peut-être stériles ou qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, et c'est pour ça qu'elles s'occupaient des enfants des autres, et que Dieu ici, en récompense de la crainte qu'elles ont eue de lui, leur donne des familles. Le plan B ne fonctionne pas, et donc le pharaon met en place un plan C, c'est le verset 22. Alors le pharaon donna cet ordre à tout son peuple, à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Alors, on connaît ces histoires par cœur si on vient de milieu chrétien. Mais il faut quand même qu'on s'arrête un instant pour prendre la mesure de l'horreur qui est en train de se passer ici. C'est un génocide. C'est une guerre civile où les enfants sont les premières victimes. L'horreur de ce que l'ennemi de Dieu est prêt à faire pour empêcher le projet de Dieu de s'accomplir dans le monde. Dieu a un ennemi. Satan essaie d'empêcher que la parole de Dieu ne se réalise dans le monde en se servant ici de Pharaon pour empêcher que le descendant de la femme promis en Genèse 3:15 ne naisse. C'est ça qui est en train de se passer ici. Pharaon, c'est pas juste un vieux roi d'Égypte qui fait de la politique. Il y a beaucoup plus que ça. Il fait partie de la descendance de la lignée du serpent. Anti-Dieu. Anti-Christ même. Parce qu'il cherche à, puisqu'il s'attaque à la famille de laquelle le Christ, le Messie, doit venir. Ne soyons pas surpris alors. Nous non plus. Si Dieu a un ennemi qui est prêt à tout. On voit là, il est prêt à tout pour empêcher le plan de Dieu. Si Dieu a un tel ennemi, ne soyons pas surpris lorsque nous rencontrons de l'opposition. Comme dernièrement, on a pu le vivre. Ça nous apparaît beaucoup plus banal, mais ça ne l'est pas. Comme on a pu le vivre dernièrement avec le forum des associations, on a voulu avoir un stand pour être visible, pour pouvoir inviter des gens à un cours de découverte du christianisme, ce qui nous a été interdit. L'opposition n'a pas besoin d'être aussi violente qu'elle l'a été ici pour les Israélites, pour que la réalité de l'inimitié, que la réalité, pardon, de l'inimitié du monde envers Dieu et son peuple soit bien réelle. L'apôtre Pierre nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ne soyons pas surpris. Mais il y a encore beaucoup plus dans ce passage, parce que Satan, l'ennemi de Dieu, s'oppose parfois directement, on le voit ici, mais parfois indirectement aussi au plan de Dieu. Remarquez une chose ici, à part les sages-femmes et les parents de Moïse, on va y revenir dans un instant, mais à part eux, on n'a pas l'impression que les membres du peuple de Dieu semblent particulièrement avoir cherché l'appui de Dieu dans leur situation ici. En fait, il y a plusieurs passages de la Bible qui soulignent que les Israélites en Égypte avaient abandonné Dieu pour servir les dieux d'Égypte. Je vais vous lire juste un passage pour illustrer ça, il y en aurait plein d'autres, mais je vais vous lire ce passage en Josué 24. Et écoutez bien, parce que vous allez entendre un mot que vous avez déjà entendu plein de fois. Okay? Josué 24, verset 14. Josué, qui est le chef du peuple, qui vient d'entrer dans la terre promise maintenant, et il leur dit, il parle au peuple, il leur dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Servir les dieux d'Égypte ou le seul vrai Dieu, l'Éternel. Vous avez remarqué que c'est le même terme, servir, service, dont on a lu un passage avant où il était question du travail, du labeur, de l'esclavage, du service du peuple d'Israël en Égypte. Il y a un lien entre les deux choses. Les Israélites étaient en grande partie responsables de l'esclavage dans lequel ils étaient tombés. Pendant les décennies qu'ils avaient passées en Égypte, avant d'être sous le régime oppressif de ce roi qui ne connaissait pas Joseph, ils avaient adopté la civilisation égyptienne, ils s'étaient mêlés à toutes leurs activités, ils avaient assimilé leurs croyances religieuses, bref, ils s'étaient égyptianisés. Et pour beaucoup, je ne dis pas tous, et pour beaucoup, ils avaient abandonné l'Éternel pour vivre en parfaite conformité avec l'esprit de leur temps. Je sais pas si vous avez été frappé tout à l'heure dans le passage que j'ai lu en hébreu, où il est question de Moïse devenu grand, et il est dit de Moïse qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché. La tentation devait être forte pour Moïse, comme elle l'était pour tout le reste du peuple, d'oublier Dieu, d'oublier le plan de Dieu, d'oublier la place qu'ils étaient censés occuper dans le projet de Dieu, pour vivre une vie de plaisir momentané dans le péché en Égypte, dans l'esclavage du péché. Dieu a un ennemi et c'est aussi comme ça qu'il essaye d'empêcher le projet de Dieu d'avancer, en s'attaquant à notre cœur. Est-ce que on n'a pas nous aussi cette tendance à nous conformer à l'esprit du temps, à tellement nous habituer et à nous faire à la société, à la culture qui nous entoure, qu'on oublie l'histoire à laquelle nous participons, qu'on oublie le projet de Dieu pour le monde, qu'on oublie de vivre dans la ressemblance et l'obéissance à Dieu pour que sa gloire soit manifestée dans le monde et que on vit plus dans la ressemblance et l'obéissance à ce monde pour recevoir la gloire pour nous-mêmes. On recherche plus notre accomplissement qu'à accomplir le projet de Dieu. Jésus a dit que nul ne peut servir, et c'est encore le même mot, nul ne peut servir deux maîtres. Et l'implication logique de ça, c'est que tout le monde sert un maître. Tout le monde sert un maître. Comme les Israélites esclaves en Égypte servaient le Pharaon, les dieux d'Égypte, et avant d'être délivrés et de servir le Dieu d'Israël, à l'image de Josué, nul ne peut servir deux maîtres. Soit on sert Dieu, soit on sert l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas de neutralité là. Voilà, plus brièvement, un dernier point. On a vu que Dieu a un plan, on a vu que Dieu a un ennemi. Et chapitre 2, maintenant, on voit que Dieu a un libérateur. Remarquez juste au chapitre 2 l'ironie de la situation, parce que on vient de voir que le plan A et le plan B du Pharaon ont juste pas marché. Alors il a mis en place un plan C, vous vous rappelez au verset 22 du chapitre 1, qui consistait à quoi? Qui consistait à mettre à mort, à jeter dans le Nil tout garçon qui naîtra. Et voilà que naît un garçon, Moïse, sous cette menace, en danger de mort. Et qui sait qui le trouve en train de flotter sur les eaux du Nil? L'ironie, c'est la fille du pharaon elle-même. Je ne sais pas si on peut dire que Dieu a de l'humour, mais en tout cas, il rigole. Il se moque de ses ennemis. C'est ce que le psalmiste nous dit. Dieu se moque. Voilà le dernier plan de Pharaon qui tombe à l'eau à cause de sa propre fille. Est-ce que vous entendez le rire de Dieu? Mais quelque chose nous dit que ce qui pourrait ressembler un peu à un hasard, cette rencontre entre la princesse et Moïse, n'est pas un hasard. C'est pas un hasard que la fille de Pharaon ait trouvé un enfant hébreu et c'est pas un hasard qu'elle ait trouvé cet enfant précisément. Ce qui nous indique que c'est pas un hasard, c'est cette action un peu étrange de la mère de Moïse. Regardez au verset 3. La mère de Moïse a caché son fils. Et au verset 3, on apprend qu'elle ne pouvait plus le faire au moment où il a eu 3 mois. Et on apprend, ne pouvant plus le cacher, verset 3, elle prit pour lui un coffret de joncs qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. Le mot qui est utilisé ici pour parler de ce coffret de joncs, il est utilisé une seule autre fois dans la Bible en référence à l'arche de Noé. C'est une arche que construit la mère de Moïse pour son fils qui, en temps voulu, 80 ans plus tard, va devenir un deuxième Noé. Hein, Moïse qui, comme Noé va prendre sa famille, leurs animaux, leurs biens, et va les délivrer au travers des eaux du jugement, pas les eaux du déluge cette fois, mais les eaux de la mer Rouge, pour les amener en sécurité dans une terre nouvelle, la terre promise. Comme Noé dans l'ancien temps, dans le passé, Dieu suscite ici un libérateur pour son peuple, dans la personne de Moïse. Et on n'a même pas besoin d'attendre les 80 ans qui vont se dérouler jusque-là pour le savoir que Moïse est un libérateur. On le voit ici directement grâce à trois épisodes où Moïse prend la défense des opprimés. Il prend la défense des plus faibles. Il y a un premier épisode, c'est les versets 11 et 12 du chapitre 2, où il tue ce contremaître égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Puis il y a un deuxième épisode, c'est les versets 13 et suivants, où il réprimande deux hébreux qui sont en train de se battre entre eux. Et puis troisième épisode, versets 16 et suivants, où finalement il vient au secours des filles de Réuel, qui va devenir son beau-père, en chassant les bergers qui leur voulaient du mal. Trois épisodes où on voit que l'action de Moïse dans ces trois épisodes, c'est un peu comme une miniature. Vous savez, les entrepreneurs, avant de se lancer dans une grande entreprise, avant de partir dans un projet de construction ou autre, ils vont faire une miniature pour savoir à quoi ça va ressembler plus tard, ce qu'ils vont faire. Et bien ici, Moïse est un peu comme une image miniature de ce que Dieu va faire plus tard. Je vous demande juste, regardez verset 11. Il nous est dit que Moïse porta les regards sur les pénibles travaux de ses frères. Plus loin, c'est Dieu qui dit avoir porté les regards sur la misère de son peuple. C'est le chapitre 3. Il nous est dit ici au verset 12 que Moïse frappa l'Égyptien à mort. Plus tard, la nuit de la Pâque, c'est Dieu qui dit, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Puis au verset 19, encore ici, les filles de Réuel reviennent vers leur père et ils disent que Moïse les a délivrées de la main des bergers. Plus tard, là encore, c'est Dieu qui dit être descendu pour délivrer les Israélites de la main des Égyptiens, au chapitre 3. Voilà Moïse qui est comme une petite miniature de ce que Dieu va faire plus tard, mais c'est une miniature bien imparfaite. Parce que regardez la fin de l'histoire, verset 22. Moïse épouse l'une des filles de Réuel, et on apprend au verset 22 qu'elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Guershom, car, dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. Donc nous, on est laissé à la fin de l'histoire avec cette impression de Moïse. On se dit que c'est un gars violent, irréfléchi, lâche, qui a dû fuir le pays d'Égypte, rejeté par les siens, et qui se retrouve à la fin immigrant dans un pays étranger. C'est une miniature bien bien imparfaite de ce que Dieu va faire. Et pourquoi alors? Pourquoi est-ce que l'histoire se termine comme ça pour nous? Pourquoi est-ce que celui qui est censé représenter l'action de Dieu, pourquoi ça se termine si mal pour lui? Et je crois que c'est pour bien nous montrer, à Moïse comme à nous, qu'il y a un seul héros dans l'histoire, et c'est Dieu. Lui seul peut apporter la délivrance dont Moïse lui-même a besoin, en fait. Parce que bien sûr, Moïse n'est pas seulement l'image de ce que Dieu va faire lui-même plus tard pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, mais il est surtout et avant tout l'image qui nous prépare à ce que Jésus-Christ, le Messie issu de la lignée de la femme, le véritable descendant d'Abraham, ce que Jésus-Christ va faire, a fait pour nous délivrer de l'esclavage du péché en écrasant la tête du serpent une fois pour toutes à la croix et en ayant la victoire sur la mort par sa résurrection. Comme Moïse, Jésus a été en danger de mort dès sa naissance. Vous vous rappelez cette histoire avec Hérode qui a voulu mettre à mort tous les enfants hébreux à Bethléem à cette époque-là. Comme Moïse, qui plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché, a quitté la gloire du palais pour s'identifier à son peuple en esclavage, Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, a renoncé à la gloire éternelle qu'il avait auprès du Père pour s'identifier à nous sans commettre le moindre péché, en prenant une condition d'esclave et en s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix. Comme Moïse, Jésus a été rejeté par les siens qui n'ont pas compris que Dieu était en train d'accorder le salut par lui seul. Dieu a un libérateur. C'est la dernière chose qu'on apprend ici, qui seul peut nous libérer vraiment de l'esclavage du péché et changer notre cœur, comme on a tellement besoin, et qui, notre cœur qui est si facilement séduit par l'esprit du temps et qui est seul capable de réorienter notre vie pour qu'on soit à nouveau des miroirs à angle droit qui reflètent la gloire de Dieu dans ce monde, partout où nous allons. J'aimerais juste conclure en attirant votre attention sur deux choses qui, moi, m'ont énormément encouragé. Parce qu'on est là, on est l'Église, et on doit poursuivre ce plan de Dieu. On doit apporter la lumière de l'Évangile pour que la gloire de Dieu aille jusqu'aux quatre coins du monde. Et dans cette tâche, il y a vraiment deux choses dans ce passage qui doivent vraiment nous encourager, qui, moi, en tout cas, m'encouragent énormément. Première chose, c'est que Dieu se sert de ce qu'il y a de plus méprisable aux yeux du monde pour accomplir son plan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hormis Moïse, il y a cinq personnes que Dieu a utilisées pour faire avancer son projet ici, malgré l'opposition du Pharaon. Il y a Shifra et Poua, ces deux sages-femmes. Il y a la mère de Moïse, il y a la sœur de Moïse et il y a la fille du Pharaon. Dites-moi, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces cinq personnes?
Elles
sont
plus en, voilà. C'est des femmes. C'est des femmes. Et rappelez-vous du plan du Pharaon, le plan C, chapitre 1, verset 22. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. C'est celle qui comptait le moins aux yeux du Pharaon, qui comptait le plus aux yeux de Dieu. Et ça c'est encourageant pour nous, dans une situation qui est la nôtre ici, on est vraiment petit, méprisable aux yeux du monde. C'est ce qui compte le moins aux yeux du monde, qui compte le plus aux yeux de Dieu. Voilà la première chose qu'on peut retenir. Puis la deuxième chose, c'est que Dieu fait progresser son plan à sa manière et en son temps. Entre l'avènement de ce pharaon cruel et la naissance de Moïse, il y a 80 ans qui se sont passés. Entre la naissance de Moïse et sa fuite à Madian, il y a 40 ans qui se sont passés. Il faut attendre encore 40 autres années pour que Moïse, à l'âge de 80 ans, revienne en Égypte pour délivrer le peuple. 160 ans, hein, entre 1600 et 1450 avant Jésus-Christ, en gros. 160 ans d'épreuves, de doutes, d'attentes. 160 ans pendant lesquels il aura fallu vraiment de la foi pour ceux, probablement les rares parmi le peuple d'Israël, qui avaient toujours placé leur foi en Dieu et qui restaient fidèles à Dieu. Et c'est bien vraiment ce que l'auteur aux Hébreux nous dit, si vous vous rappelez ce passage, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. C'est par la foi que, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi, c'est par la foi. Alors que Dieu nous accorde à nous aussi, vraiment dans la situation qui est la nôtre ici, qui est aussi une situation d'épreuve, d'attente et de doute, qui nous accorde cette foi en lui, la foi que aucune opposition n'empêchera son plan de s'accomplir. Dieu a un plan pour son peuple, et à travers son peuple pour le monde, de remplir le monde de sa gloire majestueuse, Éden jusqu'aux extrémités du monde. C'est ça le plan. Et rien ne saurait empêcher ce plan de s'accomplir dans l'histoire. C'est ce qu'on apprend ici ce matin. Amen.
En tout cas, ça m'en est vachement.